Bonjour, je suis Charles Forsdick, professeur de français à l'Université de Liverpool et membre du AKN, the Anti-Slavery Knowledge Network, le réseau des connaissances anti-esclavagistes. Ce réseau est financé par une subvention du programme Global Challenges Research Fund de l'Institut de recherche en sciences humaines au Royaume-Uni, the Arts and Humanities Research Council. Dans ce réseau, nous travaillons avec des partenaires pour développer des stratégies dirigées par les communautés en Afrique subsaharienne pour encourager des interventions créatives et fondées sur le patrimoine dans le domaine de l'esclavage contemporain. Et c'est avec grand plaisir maintenant que je suis en conversation avec Ali Bouzou du projet Leslan, qui va nous dire quelques mots sur ce qu'ils ont fait ensemble dans ce projet. Donc Ali, dites-nous ce que vous avez fait dans ce réseau Leslan et les buts du projet et ce que vous avez pu réussir l'année dernière et au cours du projet.
Ok, merci de m'avoir donné la parole quand même, ou bien même de m'inviter ici pour exposer un peu ce que nous avons fait dans le cadre du projet Leslan, qui d'ailleurs, nous vous félicitons pour le financement apporté par, en tout cas, Liverpool. Leslan, c'est un projet qui est venu pour appuyer la task force anti-esclavagiste qui a été mise en place au Niger pour faire le suivi des recommandations de la rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de l'esclavage, donc qui a visité le Niger en 2014 et qui a fait 32 recommandations sur l'esclavage au Niger. C'est la rapporteuse des Nations Unies. Et aussi appuyer l'association Temodria, dont je suis le secrétaire général, dans le cadre de ses activités. Donc l'association Temodria est une association qui lutte contre l'esclavage au Niger. Elle a été créée en 1991 et Leslan a apporté vraiment un grand changement dans le combat de Temodria. Puisque de 1991 à maintenant, c'est une presque trentaine d'années. Et l'impact qu'on a vu avec le projet Leslan, d'ailleurs au Niger, qui a été mis en place sous trois composantes, à savoir la composante recherche.
Oui.
Et la composante exposition et la composante développement. Donc ça a apporté un grand changement dans notre combat, comme je vous l'ai dit. Au niveau de la... Avant même de faire la recherche, la première activité du Leslan, c'est le colloque qu'on a organisé à Niamey en décembre 2018, donc du 18 au 20 décembre 2018. Ce colloque qui a rassemblé une centaine de participants venus d'Afrique de l'Ouest, du Sahel, d'Europe, et qui a rassemblé des chercheurs, des activistes, la société civile et les membres des bases même. Parce qu'il y a des membres des bases, les victimes qui avaient participé à ces colloques. Donc il y a eu un grand débat houleux qui a fait ressortir trois recommandations. Donc ces recommandations ont été remises officiellement au ministre de la Justice, garde des Sceaux et au premier ministre du Niger. La fin de ce colloque a été sanctionnée par un appel, qui s'appelle l'appel de Niamey, qui a eu lieu à l'ambassade des États-Unis, au centre culturel américain, en présence de l'ambassadeur du Niger, son excellence Eric Whitaker, dans lequel les pays du G5 Sahel et même l'île Maurice ont lancé un appel à la communauté internationale pour vraiment agir sur les questions de l'esclavage qui persistent au Sahel. Et en même temps, on demandait la libération immédiate donc des camarades arrêtés en Mauritanie, à savoir Biram Da Abeid et Boubacar Houssein Massaoud. L'appel a été lancé le 20 décembre et cet appel a été vraiment entendu puisque Biram Da Abeid et Boubacar Houssein Massaoud ont été libérés le 31 décembre, donc vers 23h45. Et actuellement, hier, Biram a passé, c'est-à-dire 19e personnalité les plus importantes de l'année 2019, personnalité politique, qui est classée par Washington, j'ai oublié le titre. Donc voilà. Et après, il y a eu le programme de la recherche. La recherche, on a recruté des étudiants de l'université de Niamey, dont lui, Hamissou, faisait partie, et des membres de Temodria. Donc on a recruté 5 chercheurs de l'université de Niamey, donc lesquels on les a formés, bien sûr, en tout cas, le travail qu'ils doivent faire. Donc ils ont reçu aussi l'autorisation du ministre de la Recherche. Et chacun a eu l'autorisation de recherche. Je crois que c'est une autorisation qui a eu une validité d'un an. Et ce qui est important aussi, c'est que le ministre a demandé les rapports de recherche. C'est-à-dire, après la recherche, il faut qu'il y ait les rapports de ce qu'ils ont fait. Bon, cette recherche s'est basée sur 200 échantillons, c'est-à-dire soit victimes ou maîtres, en tout cas 200 échantillons. Et a touché 7 régions sur les 8 que compte le Niger. C'est la région de Diffa seulement qui n'a pas été touchée compte tenu de la question de sécurité. Donc, il est ressorti clairement de ces recherches-là, et de cette recherche, que l'esclavage, en tout cas, existe au Niger. Donc, les chercheurs ont essayé aussi de trouver tous les matériels que les esclaves ont fabriqués. Soit autant ancien et même maintenant, ce qu'ils continuent à faire. Et ces matériels récoltés, c'est ça qui a constitué la deuxième composante du projet, qui est l'exposition. Donc, il y a eu même des posters de chercheurs. Et je voudrais aussi ajouter que avant même qu'ils ne partent sur le terrain, les chercheurs, ils ont eu des fiches de consentement. C'est-à-dire, chaque personne qui sera interviewée, il y a une fiche de consentement. Si tu es d'accord qu'on t'interviewe, tu marques ton accord. Si tu es d'accord qu'on prend ta voix, si tu es d'accord qu'on prend ta photo, donc tu signes. Et tous, ils ont signé tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment avec le consentement. Donc, ce qui fait que quand il y a eu des posters au niveau de l'exposition qui ont caché les yeux de certains interviewés, quand ils sont venus, il y a d'autres qui ont dit « Mais pourquoi on cache leur visage et ils acceptent vraiment de témoigner ? Ils sont là, ils sont des victimes. » Donc, c'est au cours de l'exposition qu'il y a, je crois, 4 phases. Bon, Hamissou Batidir va continuer peut-être les restes. La première phase, c'est-à-dire de l'exposition, C'est l'esclavage, c'est-à-dire c'est les difficultés qu'ils ont réussi, qu'ils ont vécu dans l'esclavage. Donc, cette phase a montré des gens qui ont témoigné, voilà ce qu'ils vivent. D'autres disent qu'ils sont là, ils sont la propriété des maîtres, même si on les égorge, même si... le fait tout, c'est normal parce que c'est leur maître. Il y a d'autres qui disent que, bon, lui, il est esclave et même s'il meurt, ses enfants sont des esclaves. Donc, l'exposition a dit ça. Et puis, il y a aussi un autre passage qui a parlé de la contribution des esclaves dans le développement, ou tout ce qu'ils sont en train de faire pour les maîtres, c'est-à-dire les nattes, les flèches. Tous les matériels tisserands et autres. Et tout ça, c'est de l'économie, c'est-à-dire que les maîtres utilisent. Donc, ils font ça pour...
Et Ali, pour ceux qui ne connaissent pas le Niger, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le contexte dans lequel vous avez travaillé, surtout sur l'état actuel de l'esclavage au Niger?
Bon, le Niger, pour ceux qui ne connaissent pas, le Niger, c'est un pays où persiste encore l'esclavage. Nous avons effectué une étude en 2002 avec Anti-Slavery, dans laquelle on a trouvé 3 formes d'esclavage. Il y a l'esclavage actif, c'est-à-dire c'est là où l'esclave et tous ses biens sont la propriété du maître. Et c'est exercé généralement dans les zones nomades. où vivent les Touaregs, les Arabes et les Toubou. Et il y a l'esclavage passif, l'esclavage par ascendance. C'est un esclavage dans lequel, parfois, tu ne vas même pas savoir que tu es esclave, mais il va falloir certaines cérémonies ou héritages ou élections pour te rappeler ton origine servile. On va te dire que tu ne peux pas. Par exemple, ça, c'est un esclavage qui est vécu dans la zone Sorail-Jarma. C'est là où leur coutume, dans leur coutume, il est dit que l'esclave n'a pas droit à la terre. C'est-à-dire, même si tu l'as hérité de tes propres parents, ça ne t'appartient pas. Donc, il y a l'esclavage qu'on a, nous, la troisième forme, c'est la forme contemporaine de l'esclavage, qui est la traite des personnes. Là, on a identifié une zone dans la région de Tawa, où c'est les départements de Koni, de Madawa, Ildela et Bouza. Donc, c'est un triangle. C'est dans cet espace qu'il y a une pratique qu'on appelle Wahaya. Wahaya, c'est une forme de mariage déguisé. Donc, cinquième épouse. Ou là, c'est des jeunes filles de 8 à 11 ans qui sont vendues à entre 200 et 250 000 francs par leur maître. Là, il y a un pourvoyeur qui est là-bas, il y a un intermédiaire et ils font la transaction avec les maîtres et les parents de la fille parfois ne sont même pas informés. Donc cette pratique existe encore au Niger. Donc c'est ça la troisième forme. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à exister. Donc voilà en ce qui concerne la situation de l'esclavage au Niger. Bon,
je vous remercie beaucoup. Donc maintenant, je vais tourner vers Amissou Rissa Achafer, qui a joué le rôle de chercheur dans l'ESLAN. Et Amissou, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle dans le projet, ce que vous avez fait et surtout ce que vous avez appris?
Merci. Je tiens d'abord à remercier AKN, Anti-Slavery Knowledge Network, pour nous avoir donné la possibilité de se rencontrer ici. Et je tiens à remercier aussi les coordinateurs du projet LESLAN, avec qui j'ai travaillé pendant un an. Et c'était une très belle expérience pour moi d'avoir travaillé dans le programme LESLAN. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Tant du côté de la recherche qu'au niveau de mon expérience professionnelle. Alors, la particularité du programme LESLAN pour moi, c'est que ça m'avait enseigné une autre manière de faire de la recherche. Notamment, une recherche qui respecte les valeurs des participants à la recherche, une recherche qui se veut aussi militante, une recherche engagée en faveur des droits humains. C'est une recherche aussi particulière pour moi parce que l'équipe en elle-même, elle est mixte. Il y a des universitaires, il y a des membres de la société civile, il y a des chercheurs bien définis, bien engagés, qui ont été recrutés dans le même cadre. Alors, par rapport au projet LESLAN, ce que j'ai fait, moi, c'est la recherche au niveau de la région de Maradi. J'ai conduit de la recherche là-bas pendant 4 mois, 4 phases. Il y a eu 4 phases de terrain. Et j'ai aidé aussi au niveau de l'installation de l'exposition. Alors, la particularité de la démarche du programme LESLAN, c'est une certaine flexibilité dont nous avons bénéficié tout au long de la formation. Et nous avons aussi appris une démarche méthodologique adéquate par rapport à la sensibilité de la thématique, notamment avec les discussions qu'on a eues entre les chercheurs, les membres de la société civile, les chercheurs et les coordinateurs du projet. Donc, toute cette formation nous avait permis vraiment de surmonter certaines difficultés liées à la sensibilité du sujet. D'un point de vue méthodologique, ce que je retiens du programme LESLAN, c'est surtout le côté éthique de la recherche, le côté confidentialité des données. Donc ce qui m'a marqué profondément, c'est le fait de solliciter l'accord d'un participant avant de l'interroger, demander son consentement lorsqu'il faut prendre la photo, demander son consentement s'il faut enregistrer. Donc tout ça là, c'est une expérience pour moi inoubliable.
Et suite au projet, donc quels sont vos propres projets d'avenir?
Bon, au fil du programme LESLAN, il y a eu un appel à candidature pour un poste de doctorant chercheur à l'université de Bayreuth en Allemagne. Alors j'ai postulé à ce poste-là, et avec mon expérience du programme LESLAN, ça m'avait aidé à être sélectionné pour ce poste. Donc actuellement je suis en poste de research associate à l'université de Bayreuth.
C'est excellent.
Oui, alors là-bas, à l'université de Berthe, nous avons un centre qui s'appelle Africa Multiple Cluster of Excellence. Donc, c'est dans ce cadre-là que je ferai ma thèse de doctorat.
Oui. Merci beaucoup. Oui. Le projet est tellement riche qu'on pourrait continuer à parler pendant longtemps. Oui. Mais en guise de conclusion, je vais poser une dernière question à Ali. Que reste-t-il à faire?
Ce qui reste à faire, c'est que, vous savez, quand on a exécuté le projet LESLAND, on a vu l'impact, vraiment l'impact, c'est énorme. C'est un impact qu'on n'a jamais imaginé, même d'ici 10 ans à venir. Donc, il est là maintenant. Et ce qui nous reste à faire, c'est vraiment d'essayer de former les magistrats. De former les magistrats pour qu'ils prennent conscience ou bien pour qu'ils connaissent très bien la loi criminalisant l'esclavage au Niger. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, de faire un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés même seront fermés, et faire un plaidoyer pour qu'ils acceptent de renforcer, c'est-à-dire cette loi-là, puisque nous envisageons quand même un peu la revoir parce qu'il faut que ça soit appliqué. Troisièmement, encore toujours un plaidoyer pour créer des tribunaux spéciaux, c'est-à-dire sur la question de l'esclavage, parce que ce n'est pas tous les juges, c'est-à-dire qu'on va mettre sur cette thématique qui est vraiment... qui est sceptique au monde. Donc, il y a une étude quantitative qu'on veut faire, c'est-à-dire sur l'esclavage au Niger. Cette étude est une recommandation non seulement de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage, mais aussi ça a été une recommandation lors du passage du Niger à l'EPI en 2016. Et le Niger passera maintenant en 2021 là à l'EPI. Donc, c'est très important qu'on ait cette étude de la quantitative, bien que le ministre de la Justice nous a dit qu'il va essayer d'utiliser notre étude là qu'ils ont faite, c'est-à-dire pour présenter ça à l'EPI. Et aussi, c'est la création des activités génératrices de revenus des victimes, parce que maintenant, quand on libère une victime, il faut créer quand même quelques activités pour la soutenir. Nous, on appelle ça la réinsertion socio-économique. Donc, il y a cet aspect-là. Et deuxièmement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on renforce les lois pour prendre en charge les questions des femmes. Mm-hmm. La question de la Wahaya, il faut qu'on la prenne. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit... Aujourd'hui, l'arsenal juridique au Niger ne dit rien par rapport à ça. Donc, il faut qu'on amène quand même... Et le gouvernement, comme on l'a fait en 2003, puisque la loi criminalisant l'esclavage, c'est grâce à nous en 2003. Donc même maintenant, je pense qu'on peut aller dans ce sens. Si on a des magistrats qui sont bien formés, on a des députés sensibilisés, je crois que ça sera vraiment facile à faire. Et vraiment, pour finir, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on veut, pour finir, c'est qu'il est très important que le projet LESLAN, bien les financiers de ces projets-là organisent quand même des rencontres annuelles pour voir, pour faire le suivi de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, ou bien de l'impact des choses, quoi. Je crois que ça, c'est des choses extrêmement importantes. Donc, il faut aller maintenant loin dans les recherches de financement pour toucher la question du développement. Parce qu'avec les financements qu'on a, c'est peut-être des petits financements pour faire des recherches ou quoi. Mais nous, maintenant, au Niger, la recherche qu'on a eu faire, là, on a eu beaucoup de choses. Il y a eu trop de recommandations qu'on a vues. Maintenant, il faut aller dans le développement. Donc, c'est ça qu'on souhaite pour la deuxième phase quand même du LESLAND. Et c'est bien dans ces développements-là, quand on dit développement, on va toucher à l'éducation.
Oui, tout à fait. Ouais.
Nous, on a vu l'impact de l'éducation, puisqu'on a créé des écoles communautaires. L'école communautaire, c'est des écoles avec cantine scolaire, avec pharmacie scolaire, avec la prise en charge totale des élèves et même les mères des élèves. C'est-à-dire on leur donne un appui pour faire des AGR. On crée des magasins là où on stocke des vivres. Pas cantine, des coopératives scolaires là. Donc, tout ça là pour... On recrute aussi des animateurs. Et les enseignants de ces écoles-là, c'est les enseignants de l'État. On fait un plaidoyer à l'État qui nous met des enseignants en charge, mais qu'on lui donne des primes, des indemnités. Donc tout ça va renforcer, puisqu'on a vu l'exemple maintenant, les élèves de ces écoles-là sont brillants. Ils sont à l'université de Niamey. Ils sont à l'université. Donc ce genre de choses-là, il faut les faire, puisque là où il y a des victimes, la plupart des cas, l'État est absent. C'est-à-dire donc il faut créer ces conditions-là. Et ce n'est pas seulement les victimes. Si on crée l'école, ce n'est pas seulement les victimes de l'esclavage, mais c'est tous les enfants du village.
Oui.
C'est tous les enfants du village, nous. Mais là, donc, voilà, l'essentiel, c'est qu'ils s'habituent à être ensemble. Et je crois aujourd'hui, quelqu'un qui est instruit ne sera pas la même chose que quelqu'un qui n'est pas instruit. Donc, on dit les problèmes de l'esclavage aussi, il y a l'analphabétisme. Oui. Donc, si la personne est instruite, je crois que ça va finir. Si on appuie par la réinsertion socio-économique, la pauvreté va diminuer. Oui. Donc, je pense que c'est là oui. ce que nous souhaiterons quand même voir dans la deuxième phase. Oui. Donc, et aussi, voilà, nous permettre, s'il y a des rencontres au niveau international oui. sur l'esclavage, c'est de nous permettre d'être là-bas pour vraiment exposer les résultats quand même
oui.
de ces activités. Par exemple, à Genève, par exemple, même à l'ONU. Oui. Donc voilà.
Donc merci, messieurs. Merci. J'ai l'impression que le travail va continuer pendant longtemps. Je vous remercie tous les deux de nous avoir accordé cet entretien.
Merci.
Et on suivra de près le déroulement du projet. Et on vous remercie encore une fois de la participation à notre atelier, mais également de l'apport que vous avez tous fait au développement de notre réseau. Merci beaucoup. Bonne soirée.
C'est à nous de vous remercier. Vous qui nous avez financé le projet L'Estrand et vous nous avez amené ici pour parler encore de ce qui ne va pas. Donc c'est à nous de remercier. C'est pas à vous. Merci vraiment.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Nous vous remercions vivement de l'intérêt que vous portez aux travaux de notre réseau Anti-Slavery Knowledge Network. Si vous voulez savoir davantage sur ces deux projets, ou sur les autres activités du AKN, nous vous invitons à nous suivre sur Twitter ou sur Instagram, ou de consulter nos pages sur le site web de l'Université de Liverpool. Merci beaucoup.